jour des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des serves en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpratique, comme on le dit en fait en français, ça. On permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 franc. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Mom and Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte à compter de janvier 2020 pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque des grossesses et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards, à l'aurait de 2050. C'est-à-dire qu'on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ses malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire qu'il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin, entre la femme enceinte bien sûr et le médecin.
il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore, nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur pendant le quotidien de la grossesse. Elle pourra contacter la sage-femme n'importe quel soin. Lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, qui la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB System. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau le moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'aspect local qui est en cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Alassane Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà encensée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais des solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Tiens tout à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CEMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense qu'en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moins de coûts. Voilà un peu qu'est-ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%, je peux le dire en anglais si possible.
Oui.
I have all my heart, yes. How my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo.
Yes.
Et vous voulez que ça marche.
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse.
Yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent. Et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la grippe, infection respiratoire très contagieuse. Faire la sieste, est-ce important pour vous et quels bénéfices en tirez-vous? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La grippe. Beaucoup d'entre vous ont déjà été infectés par cette maladie très contagieuse. Fièvre, courbatures, douleurs musculaires et tout sont quelques-uns des symptômes de cette infection respiratoire. La maladie, parfois bénigne, peut même entraîner la mort dans certains cas. Dans les régions tropicales, la grippe peut apparaître tout au long de l'année avec des flambées épidémiques plus irrégulières. C'est le début de la saison ici aux États-Unis et des décès ont déjà été enregistrés. Reportage de Carole Pearson.
Les personnes les plus susceptibles de mourir de la grippe sont les très jeunes et les plus âgées. Les autres personnes à risque sont les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques. Mais des personnes apparemment en bonne santé peuvent aussi en mourir. Jan Ladwin ne s'inquiétait pas trop de la grippe.
Je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer 7 jours au lit pour m'en débarrasser et tout ira bien. Mais j'avais totalement tort.
Ses organes, y compris ses poumons, ont commencé à se détériorer.
J'étais déjà en état de choc et mes organes commençaient à s'endommager. En plus, j'avais le syndrome de détresse respiratoire, puis un DIC qui me faisait saigner à l'intérieur et coaguler mon sang. Toutes ces complications ont conduit à la gangrène dans mes membres et je suis donc devenue une amputée.
Les chercheurs disent que des milliers de personnes dans le monde sont susceptibles de présenter cette mutation.
Pour en savoir davantage, nous joignons par Skype à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le docteur Kwame Claude, médecin-chef au Centre médical des gens de mer. Docteur Kwame, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, comment peut-on définir ce que c'est que la grippe?
Merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. La grippe est une maladie infectieuse due à un virus qu'on appelle virus influenzae et qui s'attaque à la sphère ORL. C'est tout ce qui est auto-rhino, c'est-à-dire auto-l'oreille, rhino le larynx, le nez et le larynx.
Généralement, pendant combien de temps dure l'infection jusqu'à la guérison?
Bon, il faut savoir que la grippe, c'est une maladie virale. Donc normalement, les virus n'ont pas de traitement. Donc la grippe, c'est autour de 5 à 7 jours, sans traitement, avec un bon petit repos, sans bouger. Normalement, on est guéri entre 5 et 7 jours.
La grippe est très commune et assez fréquente. Donc beaucoup de personnes ont tendance à se soigner à la maison. Il y a-t-il des risques et quand faut-il consulter un médecin?
C'est une maladie infectieuse, donc dès qu'on commence à avoir les signes infectieux et les signes ORL, normalement on va voir un médecin. Parce que si on reste à la maison, les premiers jours c'est contagieux. Donc normalement on doit être isolé. Donc on va voir le médecin pour avoir le vrai diagnostic et pour avoir le vrai traitement. Parce que l'isolement fait partie du traitement. Si on ne va pas à l'hôpital correct à la maison, on peut contaminer toute la famille. Sans le savoir parce qu'on ne sait pas qu'on a la maladie.
Quelles sont les meilleures méthodes pour prévenir la grippe?
Pour la prévention, il faut éviter d'être en contact avec quelqu'un qui a la grippe. C'est comme ça qu'on évite la grippe. Ou bien, il faut faire le vaccin. Il y a un vaccin. Donc, il faut se faire vacciner. Maintenant, comme c'est une maladie bénigne, elle n'est pas dangereuse pour les personnes jeunes. Elle est dangereuse pour les personnes âgées. Donc, on conseille aux personnes âgées d'aller faire le vaccin.
Docteur Kwame, nous passons maintenant aux questions des téléspectateurs. Nous avons recueilli vos réactions sur Facebook. Galvani Tegalva souhaiterait savoir comment peut-on savoir qu'on souffre de la grippe saisonnière? Effectivement, docteur Kwame, surtout vu qu'on retrouve plusieurs des symptômes chez d'autres maladies.
Comme je vous l'ai dit, pour trouver une maladie, il faut trouver un syndrome. Une maladie, c'est au moins deux syndromes. Un syndrome, c'est des signes. Vous comprenez? Donc la grippe, il y a deux syndromes. Il y a le syndrome infectieux et le syndrome ORL. Le syndrome infectieux, c'est la fièvre, les céphalées, les courbatures, l'asthénie. Le syndrome ORL, c'est la rhinite, le rhume et le caca oculonasal. C'est-à-dire que la personne saigne des narines et des yeux. La personne tousse. Les deux syndromes associés, on diagnostique, on appelle ça la grippe. Voilà. Voilà comment on diagnostique la grippe. Vous voyez comment c'est? Mais si tu ne vas pas à l'hôpital, tu ne passes pas. Comprenez? Voilà. Donc on peut faire un diagnostic différentiel. En Afrique, on pense souvent, quand on a une fièvre, on pense au palu. Mais le palu, il n'y a pas de signe ORL. La grippe, il y a le syndrome infectieux comme le palu, associé à un syndrome ORL. On a les deux syndromes, on a la grippe. Et puis, on décide d'avoir été en contact avec quelqu'un qui a la grippe.
Et finalement, comment se fait la prise en charge de la grippe en Afrique de façon générale?
Il faut savoir que la grippe, c'est une maladie infectieuse. Qui parle de maladie infectieuse parle de fièvre. Voilà. Chez nous, pour parler de maladie, il faut parler de deux syndromes. La grippe, il y a le syndrome infectieux et le syndrome ORL. Donc, on traite le syndrome infectieux et on traite le syndrome ORL. Mais il faut savoir que c'est un traitement symptomatique. Je vous l'ai dit, les virus n'ont pas de traitement. Donc, en matière de grippe, c'est un traitement symptomatique. On traite les signes et on te donne un repos isolé. Et après, la grippe s'en va d'elle-même. Voilà. Donc, on t'aide à supporter la grippe. On n'a pas de traitement. Donc, on t'aide à supporter la grippe, on soigne les signes qui sont associés à la grippe. Comme la fièvre, les courbatures, l'encéphalée.
Docteur Kwame, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que le docteur Kwame Claude est médecin-chef au Centre médical des gens de mer. Que faites-vous entre midi et 2 heures? Pour certains d'entre vous, c'est la sieste. Faire la sieste est une pratique bien établie dans plusieurs pays à travers le monde. Pour beaucoup de personnes, il est important de prendre un court moment de repos, généralement en début d'après-midi, souvent après le déjeuner. Pour d'autres personnes, pas de temps pour dormir durant la journée. Et vous, faites-vous la sieste? Si oui, comment vous sentez-vous après ce petit moment de repos? Nous avons recueilli quelques témoignages à Lagos, au Nigeria.
Oui, j'aime faire la sieste parce que c'est vraiment bon pour le corps. Ça aide à relaxer les nerfs, à calmer le cerveau. Et lorsque vous vous réveillez d'une sieste, vous vous sentez bien, vous vous sentez alerte, vous vous sentez même plus belle. Médicalement, la sieste est bonne pour le corps. C'est pourquoi il est recommandé aux gens de faire la sieste.
Comme ça, par ignorance, je suis allé faire un contrôle de ma tension artérielle et j'ai découvert que ma tension était trop élevée. On m'a donc recommandé la sieste, me disant que c'est essentiel.
Oui, j'aime beaucoup faire la sieste parce que ça me donne un air plus frais. Et aussi, ça crée un équilibre cérébral. Ça me donne l'air plus intelligent. Quand je ne prends pas ma sieste, j'ai l'air déphasé et les gens me demandent ce qui ne va pas. Donc, pour ces raisons, j'en fais quelque chose d'obligatoire. Même mes enfants, je les oblige à faire la sieste dès qu'ils arrivent de l'école. Parce que j'ai remarqué que quand ils ne font pas ça, ils ont l'air pâle.
Yes, nap is good.
Oui, la sieste, c'est bien et j'en fais. Quand je prends une sieste, mon système se détend. Et j'ai découvert que ça aide à prévenir beaucoup de problèmes de santé et c'est bon pour le système. Même vos capacités mentales se réajustent après la sieste.
Les experts recommandent 8 heures de sommeil par jour pour une bonne santé, ce qui n'est pas facile à accomplir pour certaines personnes. Et selon une nouvelle étude qui suggère que les courtes siestes peuvent réduire le risque d'accident cardiovasculaire de près de 48%. Karina Bafradian a visité un nouveau magasin qui croit au bienfait d'une bonne sieste.
Selon une nouvelle étude du Centre américain de contrôle et prévention des maladies, près du tiers des Américains, 35%, ne dorment pas assez. Le studio Recharge Power Nap essaie de trouver la solution ici même à Washington.
L'importance du sommeil se situe entre la sieste et l'état d'éveil où l'activité cérébrale est au ralenti, ce qui vous aide à vous reposer. Ce n'est pas que vous dormiez, c'est juste un état de repos pour vous sentir mieux après, être plus productif, plus énergique.
L'idée d'une petite sieste, ne dépassant pas une demi-heure, a été développée dans les années 90 par le psychologue américain James Maas. Ses recherches montrent que faire une sieste ne signifie pas forcément s'endormir, mais que certaines conditions doivent être réunies, comme une lumière tamisée, une température fraîche et un environnement calme.
Selon les experts, les siestes peuvent compenser les pertes de sommeil engendrées par le travail, les enfants ou des nuits mouvementées. Donc n'hésitez pas si vous avez du temps pour une petite sieste, car cela peut vous faire beaucoup de bien. Alors, bonne sieste. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous jetterons un coup d'œil sur l'autisme. Si vous avez des questions ou des commentaires, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sekoushek Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Sekoushek Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en Afrique. Après, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.